France Inter. Le 7-9.
7h50, Hélène Philly, votre invitée ce matin est députée Les Républicains du Lot.
Aurélien Pradier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune élu rural. Vous n'avez pas manqué de suivre ce week-end le passage d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, ses échanges directs avec les agriculteurs. Vous êtes élu rural, je le disais, vous revendiquez avoir le verbe haut. Ces échanges directs, vifs, ça a dû vous plaire?
Je sais pas, moi je trouve qu'il y a des histoires d'amour qui sonnent faux. Et ce week-end, je trouvais qu'on avait entre le président Macron et le monde agricole une histoire d'amour qui sonnait faux. C'est très bien, il a passé 12h30 au Salon de l'Agriculture, il a adopté une poule, il a caressé des vaches, c'est formidable. Mais les sujets sont ailleurs. Et puis j'ai trouvé à vrai dire que... Il y avait un ton assez infantilisant. J'ai écouté avec attention les échanges. Il a été courageux d'aller au contact. Il n'avait pas trop le choix. Il fallait bien qu'il y aille. J'ai un peu de mal avec ce ton qui consiste à toujours expliquer à celui qui est en face de soi qu'il a nécessairement tort, qu'Emmanuel Macron détiendrait la vérité et que les autres n'auraient rien compris. Cette tendance à l'infantilisation, elle m'a assez dérangé durant ce week-end.
Il y a le ton, il y a quand même du fond. Il y a un projet de loi qui vise à donner un prix plus juste pour les agriculteurs. C'est ce qu'ils demandent. Là, on parle de fond.
Le chantier est immense et sur ces questions-là, moi je serai aux côtés de toutes celles et ceux qui souhaitent replacer un prix juste rémunérateur pour nos agriculteurs. Mais il y a aussi des urgences qu'on a totalement passées sous silence. Vous savez, il y a quelques semaines, les agriculteurs d'Occitanie en particulier se sont très très fortement, presque violemment mobilisés contre la disparition des zones défavorisées, qui est un outil extrêmement juste de la politique agricole commune.
Pour compenser un handicap de territoire sur l'agriculture.
La logique, elle est très simple, elle est de dire qu'il y a des territoires dans notre pays sur lesquels c'est beaucoup plus difficile de produire. Et donc la politique agricole commune, c'est sûrement une des dispositions les plus intelligentes d'ailleurs, a permis que sur ces territoires, on compense le handicap naturel. Et bien sur ce sujet, le ministre de l'Agriculture et le président de la République n'ont pas été à la hauteur.
1400 communes sortent de ce dispositif.
Parfois elles sortent, parfois elles rentrent. On a des va-et-vient permanents. Aujourd'hui, on est effectivement sur 1400 communes qui sortent du dispositif. On est sur des agriculteurs qui jouent tout simplement leur avenir et donc des territoires qui jouent tout simplement leur avenir. Mais oui, sur cette question très concrète, au-delà de la littérature, le président de la République n'a pas été au rendez-vous.
Vous êtes justement, vous voulez aller au-delà de la littérature, c'est ce que vous revendiquez aussi à l'Assemblée dans votre manière d'être parlementaire. Aujourd'hui, on dit de vous que vous êtes turbulent dans l'hémicycle.
Oui, je suis indocile, mais je le revendique totalement. D'abord, je sais d'où je viens. Moi, je viens d'une famille qui n'a jamais fait de politique. J'ai gagné ma première campagne électorale en mobilette contre mon instituteur et je représente aujourd'hui des habitants qui, pour beaucoup, ne sont plus entendus et plus représentés depuis longtemps. C'est pas un honneur, c'est une responsabilité. Donc, ma première responsabilité, c'est de rester libre à l'Assemblée nationale, de dire les choses, toujours respectueusement, je tâche de le faire, mais de ne pas m'embourgeoiser. Je supporte pas cet embourgeoisement permanent à l'Assemblée nationale.
Qui s'embourgeoise ?
La majorité est terriblement embourgeoisée. Elle est terriblement embourgeoisée et elle a perdu toute notion de liberté. Moi, mes colères, mes convictions, mes valeurs, mes idées profondes, je les ai héritées du terrain. C'est là que je les ai apprises. Je suis pas un mec génial. J'ai tout simplement appris ça au contact de la réalité depuis près de 10 ans.
Et
je
ne suis pas une page blanche. Dans la majorité, il y a énormément d'élus qui représentent la société civile et dont on pourrait dire qu'ils sont aussi élus de terrain.
Oui, c'est très bien qu'ils représentent la société civile, mais je la représente aussi d'une certaine manière. En tous les cas, je ne suis pas une page blanche. Et je refuse catégoriquement d'abandonner ma liberté de député à quelque autre discipline. Vous savez, je suis député, je ne suis pas sous-préfet d'arrondissement, j'ai beaucoup de respect pour les sous-préfets d'arrondissement, je ne suis pas directeur de cabinet, donc je dois me comporter comme un député, et parfois avoir le verbe haut n'est pas un problème.
Très bien, et en même temps, est-ce que vous avez déjà déposé des propositions, une proposition de loi dans l'exercice de votre députation ?
Des amendements, beaucoup. Les propositions de loi, c'est une étape différente, mais j'y souscris beaucoup à de nombreuses occasions. Je tâche de travailler aussi, c'est la condition. On peut avoir un peu de tempérament à la condition que l'on travaille.
On attend le calendrier de la réforme du rail aujourd'hui. Êtes-vous satisfait des pistes du rapport Spinetta, comme l'est l'ancien ministre des Transports de droite, par exemple, Dominique Bussereau ?
Mais je pense que Dominique Bussereau se trompe totalement. Moi, je suis très, très hostile à cette idée-là. Tout à l'heure, la remarque était faite. Évidemment que la SNCF est dans une situation déficitaire, mais la question est de savoir ce que l'on veut faire de ce pays, comment on veut l'aménager demain. Moi, j'habite dans le Lot, il m'arrive de prendre le train et effectivement, on n'a jamais un train absolument bondé. Néanmoins, les services que le train rend dans des territoires comme le nôtre, il est tout aussi fondamental que les services qu'il peut rendre dans la métropole toulousaine, montpelliéraise ou parisienne. Et donc, je dis simplement que le rapport Spinetta, il est l'incarnation de ce pouvoir technocratique qui reprend le dessus aujourd'hui. Moi, je souffre de voir disparaître la politique, avec un grand P, les convictions. Je le dis souvent, mais à l'Assemblée nationale, depuis quelques mois, on nous parle d'efficacité, exclusivement d'efficacité. C'est très bien l'efficacité, mais il va falloir mettre des idées, il va falloir mettre des équilibres, il va falloir que le politique existe véritablement. Et aujourd'hui, c'est plutôt
donc
le règne
de la froideur. Vous dénoncez la méthode, les ordonnances, par exemple ?
Je dénonce non seulement la méthode, mais en plus la réaction du gouvernement au rapport Spinetta. La ministre des Transports aurait dû réagir immédiatement, notamment sur la fermeture des petites lignes, pour dire que oui, M. Spinetta avait cette conviction, que oui, nos technos avaient cette conviction qu'il fallait dégraisser le mammouth, mais que par ailleurs, le politique avait la responsabilité de préserver des équilibres. Ce qui aujourd'hui me semble terriblement manquer dans notre pays, c'est cette préservation des équilibres. Le politique s'est abandonné à la technique.
L'opposition que vous êtes, l'opposition de droite, elle arrive à s'exprimer fortement à l'Assemblée ?
Si je vous disais que c'était facile, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Ce que Emmanuel Macron a amené, plutôt ce que l'époque a amené, c'est le renouvellement, incontestablement. Plein de choses ont été abandonnées à mon avis, mais le renouvellement a été porté. Et je pense qu'à droite, ce renouvellement, il est aussi nécessaire. Il faut que des visages nouveaux arrivent. On n'est pas meilleur que les autres, mais on incarne quelque chose de différent, qu'on vienne faire respirer notre famille politique. Mais vous savez, moi je suis convaincu que notre pays a besoin de débats politiques. Et je dis souvent que La République En Marche, c'est un complément alimentaire. Depuis de nombreuses années, les Français, et moi le premier, on a soupé d'une vieille politique un peu lourde, un peu pesante
sur l'estomac. Vous la représentez en même temps, cette vieille politique ? Vous êtes un élu de terrain, les pieds, la politique, les pieds dans la terre, comme aimait la faire Jacques Chirac, par exemple.
Ça fait 10 ans que je suis élu, c'est vrai. Mais néanmoins, je ne suis pas un apparatchik, je n'ai pas grandi dans les partis politiques. Vous savez, il y a une sorte de caste qui se réinstalle aujourd'hui, je le dis très librement, dans notre pays. Une caste du pouvoir, de ceux qui ont le pouvoir de l'argent, de ceux qui ont fait les grandes écoles. Et au fond, je suis un peu atypique, mais comme d'autres de mes collègues à l'Assemblée nationale, parce que, je le redis, j'ai été maire, j'ai été conseiller régional, conseiller général, je dois tout à la République et à la démocratie locale. C'est pas plus honorable que d'autres, mais c'est pas plus déshonorant.
Est-ce qu'il vous représente bien aujourd'hui, Laurent Wauquiez, et est-ce qu'il peut rassembler tout le monde ? Dans le parti Les Républicains ?
Moi, j'ai un regard personnel sur Laurent Wauquiez parce que je le connais depuis longtemps. Et donc, il faut d'abord que je vous dise qu'avec moi, il a toujours été fidèle, il a toujours été loyal,
il a toujours été
droit. Il a toujours été cash aussi. Mais je le redis, cette aseptisation du débat politique, elle est quand même terrible. Moi, je trouve qu'on étouffe. Et puis, on a une tendance à s'apesantir sur l'accessoire et pas sur l'essentiel. Si vous voulez des sujets d'indignation, moi, j'en connais beaucoup. On a en ce moment des hommes et des femmes qui dorment dans la rue, qui meurent dans la rue. Ça, ce sont des sujets d'indignation bien plus importants que les déclarations de Laurent Wauquiez volées dans une salle de classe.
Jean-François Copé dit quand même qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. C'est ce qu'il disait hier soir. C'est un baron de la droite qui dit ça.
Mais le temps n'est plus parfaitement au baron, le temps est au renouvellement de la droite.
Très bien, donc ça ne vous inquiète pas pour l'avenir du parti, pour les lignes qui cohabitent entre elles et qui connaissent pas mal de divergences ?
Rien ne m'inquiète. Ce qui m'inquiète simplement, c'est de me lever tous les matins en me disant que ce que je fais sert à quelque chose, que je suis utile à une cause plus grande que moi. Je sais que j'ai beaucoup d'autres collègues députés qui ont la même préoccupation et qu'on est utile aux Français. Pour le reste, les histoires de barons, c'est une vieille histoire.
Voilà, la politique, les pieds dans la terre avec vous. Merci beaucoup Aurélien Pradier. On a commencé à faire connaissance avec vous, député LR du Lot.
Merci Hélène Fillet. On se retrouvera tout à l'heure avec grand plaisir à 8h40.